Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, une série de 22 émissions du Père Joseph Sabalo, enregistrée dans les années 90 pour Radio Lapourdi. Par cette rediffusion, Radio Lapourdi rend hommage au Père Joseph Sabalo, originaire d'Asparin, qui est décédé le 5 novembre 2019. Histoire de l'Église du Père Joseph Sabalo, 7e épisode, la mouvance carolingienne.
L'Église dans la mouvance des Carolingiens. Traité de l'Église dans la mouvance des Carolingiens, ce sera parler d'abord de la naissance des États pontificaux, puis en second lieu de Charlemagne gouvernant l'Église, troisièmement du temps de décadence de la sombre période qui va du milieu du 9e siècle approximativement au milieu du 10e. Quatrièmement, de la crise que connaît la papauté à cette même époque. Et enfin, de la fin du 10e siècle comme d'un temps d'espérance. La naissance des États pontificaux. L'histoire des Carolingiens commence avec les Pipinides. Les Pipinides, descendants de Pépin de London, commencèrent par être, sous les derniers Mérovingiens, leur maire du palais. D'abord majordome des demeures royales, administrateur des domaines royaux, puis leurs hommes forts, l'équivalent de ce que l'Espagne appellera ses validos, ou le Japon des Mikado des shoguns. Ce sont eux, ces maires du palais, qui gouvernent en réalité, à partir du milieu du 7e siècle, une Francie qui réunit l'Austrasie, la Neustrie et la Bourgogne et commence à dominer le sud de la Gaule. Le premier qui laisse un grand nom dans l'histoire parce qu'il s'impose à l'ensemble de la Francie est Pépin d'Héristal, petit-fils par son père d'Arnulf, qui fut évêque de Metz, et de Pépin de London par sa mère. Charles Martel, son bâtard qui lui succède, est un formidable guerrier, armé d'une énorme massue, d'où son surnom, qui assoit la domination franque sur l'Aquitaine, la Provence, la Frise, la Saxe, et qui, en 732, près de Poitiers, arrête l'invasion des Arabes, déjà conquérants de l'Espagne, et les rejette au-delà des Pyrénées. Charles Martel est un croyant sincère et attaché à l'Église, qui certes n'hésite pas à distribuer à ses leudes, ses compagnons de combat, abbayes et évêchés, mais qui assure sa protection au clerc et permet à des missionnaires de la taille de Saint-Willibrode et de Saint-Boniface d'accomplir leur œuvre apostolique parmi les populations de Germanie. Son fils, Pépin le Bref, qu'on a dépeint comme un petit homme courtaud à la carrure puissante qui, à la suite d'un pari, s'amusait à séparer dans l'arène un lion et un taureau en train de combattre, Pépin le Bref a joué un rôle encore plus important pour l'avenir de la chrétienté. En 751, alors qu'il est maire du palais depuis la mort de Charles Martel, il dépose le roi mérovingien Childéric III avec l'approbation du pape Zacharie et l'enferme dans un monastère. Il est proclamé roi par les grands et les évêques et sacré par Saint Boniface, l'apôtre de la Germanie. En 753, le successeur de Zacharie, le pape Étienne II, fait le voyage de France pour implorer son aide contre les Lombards de Liutprande, barbares établis dans le nord de l'Italie, dont la pression s'exerce sur tout l'ensemble de la péninsule et en particulier sur Rome. Précédemment, le pape avait demandé en vain le secours de son allié naturel, l'empereur de Byzance, Constantin V Copronyme. Étienne II rencontre le roi à Pontion, dans les Ardennes, renouvelle son sacre dans la basilique Saint-Denis et confère en même temps l'onction aux deux fils de Pépin, Carloman et Charles. La dynastie des Carolingiens est ainsi définitivement fondée. Et c'est avec cette dynastie, avec la royauté franque, que s'allie la papauté. Désormais, elle ne s'appuie plus sur l'Empire d'Orient, mais sur les souverains qui s'avèrent les plus puissants de l'Occident, les Carolingiens. C'est un tournant de la plus haute importance pour l'histoire de l'Église et ses effets sont très vite extrêmement sensibles. Car, en 755, Étienne II rentre à Rome sous la protection de Pépin le Bref et surtout l'année suivante, en 756, au cours d'une nouvelle expédition, le roi franc fait don au pape des territoires reconquis sur les Lombards en Italie centrale, les régions de Ravenne et de Pérouse, qui, unies à Rome et au Latium, vont constituer pour 11 siècles les États pontificaux. Byzance demandait qu'on les lui restituât, Pépin le Bref les donne au pape. À cette même époque se répandait le texte en faux que tout le Moyen-Âge tiendra pour authentique d'une donation de Constantin selon laquelle le premier empereur chrétien aurait cédé au pape la puissance et la dignité impériale, tout l'Occident et la primauté sur tous les sièges patriarcaux. L'étroite alliance établie entre la papauté et la dynastie franque va persister et se consolider sous le long règne du fils et successeur de Pépin le Bref, Charles, Charles le Grand. Né en 742, roi d'Neustrie en 768, roi des Francs en 771, empereur des Romains en 800 et qui mourut en 814. Charlemagne sera, comme on sait, l'initiateur de l'Empire d'Occident, celui qu'on appellera l'Empire romain germanique. Dès 773, soit 5 ans après la mort de son père, 2 ans après que la mort de son frère Carloman l'a laissé seul à la tête des possessions franques, il franchit les Alpes avec son armée, écrase les Lombards, exile leur roi et pose sur sa tête la couronne de fer des rois lombards. Il se proclame par la grâce de Dieu roi de Francie et des Lombards et patrice des Romains. À Rome, lors des fêtes de la Pâque qui suit, il est reçu triomphalement par le pape Adrien Ier à qui il confirme la donation de Pépin le Bref. En 799, le nouveau pape Léon III, au cours de la procession dite des litanies majeures, le 25 avril, est victime d'un grave attentat. Il est jeté à bas de son cheval, dépouillé de ses habits pontificaux, roué de coups, accusé calomnieusement de toutes sortes de vices et de crimes, il est enfermé dans un couvent en attendant d'être jugé. Il réussit à s'évader à l'aide d'une corde, gagne Spolète, où il est soigné de ses blessures, puis court à Paderborn, en Westphalie, cité que fondait Charles, et là, il implore le roi des Francs et des Lombards de le rétablir. Charles l'embrasse, en pleurant, accède à ses désirs, et lui donne une escorte de soldats et de hauts fonctionnaires pour revenir à Rome et s'y réinstaller. L'année suivante, Charles se rend en Italie pour s'assurer que tout y est en ordre. Et c'est le 25 décembre, à Saint-Pierre, au milieu d'un peuple en liesse, que le pape pose sur son front la couronne impériale. À Charles très pieux, auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire. La foule répète par trois fois cette acclamation. Puis le pape verse l'huile sainte sur le front du nouvel empereur, après quoi il se prosterne devant lui, lui le pape devant Charles, pour l'adorer, c'est-à-dire lui baiser le bout du pied, comme on faisait jadis pour les empereurs de la Rome antique. Tels sont indiqués à grands traits les événements majeurs qui instaurent entre la papauté et la monarchie franque une alliance d'une remarquable intimité. L'Église en tire d'incontestables avantages. Du fait des qualités exceptionnelles de Charlemagne, l'Occident connaît, jusqu'aux invasions normandes, qui auront lieu à partir de 820, une ère de paix et de relative prospérité qui ont donné aux hommes de ce temps l'impression ou l'illusion qu'ils sortaient de l'épaisse nuit des temps barbares. On a parlé de la Renaissance carolingienne. Quand Charlemagne gouvernait l'Église, à cette époque, le véritable chef de l'Église catholique, pour aussi surprenant que cela puisse nous paraître aujourd'hui, c'est Charlemagne. Il en a lui-même nettement conscience, et les autres aussi. Ainsi, son ministre, le célèbre Alcuin, lui écrivait en juin 799, quelques mois donc, avant son couronnement impérial, « Notre Seigneur Jésus-Christ vous a réservé la dignité royale pour que vous gouverniez le peuple chrétien. » Votre dignité royale l'emporte sur la sublimité apostolique du vicaire de Pierre, comme sur la dignité impériale de la seconde Rome. Elle les éclipse en sagesse et les surpasse. C'est maintenant sur vous seuls que s'appuient les églises de Christ, de vous seuls qu'elles attendent leur salut, de vous, vengeurs des crimes, guide de ceux qui errent, consolateurs des affligés, soutien des bons. » Dans le même sens, Catulfe, un prêtre, lui écrit « Souvenez-vous que vous devez garder et diriger tous les membres de l'Église à la place de Dieu et que vous devrez en rendre compte au jugement de Dieu. » Dès 795, dans une lettre au pape Léon III qui vient d'être élu, Charles répartit nettement les rôles entre le pape et lui. « À moi, il appartient, avec l'aide de la divine miséricorde, de défendre en tout lieu la Sainte Église du Christ, au dehors par les armes, contre les incursions des païens et la dévastation des infidèles, au dedans en la fortifiant par la diffusion de la foi catholique. À vous, très saint Père, il appartient, levant les mains vers Dieu avec Moïse, d'aider par vos prières au succès de nos armes. » En somme, à moi le travail, à vous la prière. Charles a souci de la bonne conduite du pape et de son avancement spirituel. À son représentant à Rome, il donne des instructions du genre de celle-ci, avertit bien le pape qu'il doit vivre honnêtement et surtout observer les cinq canons. Répète-lui souvent que l'honneur auquel il vient d'accéder est chose passagère, alors qu'est éternelle la récompense promise aux bonnes œuvres. Comme faisait Constantin, et comme font après lui les empereurs byzantins, il légifère en matière de discipline ecclésiastique, convoque des conciles et veille à l'application des décisions prises. Le dogme même est de son ressort. Il s'oppose à l'adoptionnisme, d'après lequel Christ n'est pas fils de Dieu par nature, mais par adoption. Il met en garde contre un culte excessif des images, s'il ne flirte pas un temps avec l'iconoclasme. Il emboîte le pas à l'usage espagnol pour ajouter au symbole de Nicée-Constantinople le filioque que les Grecs reprocheront tellement aux Latins. L'état de l'Église sous les derniers mérovingiens, nous le disions dans notre précédent entretien, n'était pas particulièrement heureux. Monseigneur Duchesne l'a même qualifié de lamentable. Au début du 8e siècle, cela ne s'est guère arrangé, si l'on en juge, par ce sombre tableau que trace Pierre Richer dans l'histoire du christianisme. L'Église mérovingienne offre pendant quelques décennies l'image d'une société à la dérive. Les évêchés sont confiés à des laïcs, tels ceux de Rennes, de Nantes, du Mans. D'autres n'ont plus de titulaires. On ne compte qu'un évêque à Lyon entre 712 et 769. Plus d'évêques en Provence, qui échappent au pouvoir franc. Et la Gascogne n'est pas plus heureuse. L'évêché de Bayonne, par exemple, signalé en 587 dans la rédaction du pacte d'Andelot, se perd ensuite dans la nuit de ses temps jusqu'en 840 et l'évêque Sénac. Pour triompher de leurs adversaires, les maires du palais distribuent les évêchés à leurs clients et permettent le cumul des bénéfices. L'exemple le plus célèbre est celui du neveu de Charles Martel, Hugues, qui est évêque de Rouen, Paris et Bayeux, et abbé de Jumièges et de Fontenelle. Milon est évêque de Trèves et de Reims, comme l'ont été son oncle puis son père. Vido, parent de Charles Martel, est abbé laïque de Fontenelle et de Saint-Vaast, mais ayant comploté contre Charles, il est condamné à mort. Beaucoup de clercs et d'évêques mènent la vie des laïcs et ne songent qu'à festoyer, à chasser, à entretenir des concubines. Beaucoup sont illettrés. Dans ces conditions, les fidèles laïcs sont livrés à des aventuriers et à des charlatans, dont les plus connus sont le prêtre Adalbert et le clerc Clément, un Irlandais. Adalbert, ordonné par des évêques indignes, dénonce la hiérarchie et les sacrements et prêche le salut grâce à des reliques apportées par les anges et une lettre que lui aurait écrite le Christ. Édifiant partout des croix, il distribue comme relique ses ongles et ses cheveux. Le paganisme renaît dans le nord et l'est de la Gaule, comme en témoignent les pratiques inscrites dans l'Indiculi Superstitionum. Sur l'état de l'Église franque, saint Boniface, le grand apôtre de la Germanie, porte lui aussi des jugements d'une extrême sévérité. Dans un rapport adressé au pape Zacharie, il dénonce les évêques. Ils n'aiment que le vin et la chasse. Quant aux diacres, ce sont des individus plongés depuis l'adolescence dans la débauche et l'adultère, qui ont 4, 5 ou davantage de concubines dans leur lit et qui cependant ne rougissent pas de lire l'Évangile et de parvenir à l'ordre de la prêtrise puis à l'épiscopat. On peut se demander d'ailleurs comment les clercs arrivaient à lire l'Évangile, car la plupart d'entre eux étaient d'une ignorance crasse et supine. Les écoles ecclésiastiques sont désorganisées, le latin, langue liturgique, est inconnu. Saint Boniface parle d'un prêtre bavarois qui avait baptisé in nomine patria et filia. Charlemagne, qui se regarde, nous l'avons vu comme responsable de l'Église, va-t-il porter remède à tant de maux? À vrai dire, l'œuvre de réforme a été sérieusement amorcée par Pépin le Bref et par Carloman. Elle prend toute sa dimension avec l'empereur. Qu'il s'agisse de discipline ecclésiastique, de la vie intérieure des monastères, de la formation ou du recrutement du clergé, de l'instruction religieuse des fidèles, de leur assiduité aux offices et à la communion, de l'observation du repos dominical et des fêtes religieuses, de la liturgie, des sacrements et en particulier du baptême. Qu'il s'agisse même du dogme, rien n'échappe à l'attention de l'empereur, rien ne paraît étranger au champ normal de son activité. Charles confond les domaines religieux et politiques. La religion sert l'État et l'État favorise la religion. Prospérité économique, paix et concorde, soin des âmes ne constituent qu'une seule entreprise. Il est assez symptomatique que les fameux Missi Dominici, les envoyés du maître, qui portent et font exécuter la loi dans toutes les parties du vaste empire carolingien, vont par couple, un ecclésiastique et un laïc. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que le roi, puis l'empereur, qui nomme les évêques et les abbés, les choisissent le plus souvent parmi les clercs de son entourage ou dans les familles aristocratiques. Depuis le règne de Pépin le Bref, les Carolingiens disposent de grandes abbayes, environ 200, qu'ils considèrent comme des biens personnels. Ils installent à leur tête leurs fils et leurs filles, leurs bâtards et leurs amis. Dans la plupart des cas, le choix de l'évêque s'avère heureux. L'investiture que lui donne le roi a été précédée par une enquête conduite par un visiteur délégué par le roi et une élection par le clergé et les notables. Le fait est que dans ces conditions si éloignées de celles que nous connaissons aujourd'hui, la qualité de l'épiscopat s'améliore notablement. Du reste, des dizaines de cathédrales sont construites. Et pour que les diocèses soient mieux administrés, les Carolingiens les divisent en archidiaconés et en doyennés. Dans leur tâche réformatrice, ils sont aidés par des personnalités remarquables. Alcuin, le collaborateur le plus habituel de Charlemagne, Chrodegang, l'évêque de Metz, qui régla la vie des chanoines sur celle des moines, ou encore Benoît d'Aniane, qui persuada les moines de revenir au modèle bénédictin formulé par Benoît de Nursie. Charlemagne invite fermement les évêques à visiter les paroisses de leur diocèse et à prendre soin des prêtres qui en ont la charge. Quant au monastère, on en compte 650 sur le vaste territoire de l'Empire, deux fois celui de la France d'aujourd'hui, soit plus d'un million de kilomètres carrés. Quant au monastère, l'empereur veut des familles monastiques stables, dirigées par un abbé de valeur, s'adonnant au travail manuel et intellectuel, et surtout à la liturgie, car il compte sur les prières que les moines adressent à Dieu pour le succès de ses entreprises. Les capitulaires et les canons des conciles rappellent continuellement les principes du monachisme. Observance des vœux, chasteté, pauvreté, intervention des évêques dans les monastères, interdiction de toute activité extérieure. À la fin de son règne, Charlemagne se rendit compte que le meilleur moyen de réformer les monastères était d'imposer partout la règle qui lui paraissait excellente, celle de Saint Benoît. En 813, il demanda à l'abbé du Mont Cassin de lui envoyer une copie de la règle et il la fit diffuser partout. Il est certain que l'empereur connaissait alors l'activité de celui qui allait devenir le second fondateur du monachisme bénédictin, Benoît d'Aniane. On sait qu'un souci majeur de Charlemagne fut de développer l'instruction. C'est en effet, à ses yeux, le moyen essentiel de la réforme et de l'Église et de l'État, entre lesquels, répétons-le, il n'y a pas, à ses yeux, de distinction précise. On a dit très bien que la Renaissance carolingienne se présente essentiellement comme la mise en place d'écoles pour instruire les jeunes clercs. Non pas l'ensemble de la population, mais les clercs, parmi lesquels le roi ou l'empereur trouveront les cadres qui leur permettront à la fois d'administrer et d'évangéliser. Et les écoles s'ouvrent en effet partout dans l'Empire. les monastères, les chapitres, les évêchés en organisent. Ce sont ces écoles monastiques, capitulaires et épiscopales qui constitueront l'appareil scolaire de tout le Moyen-Âge. Sur l'ordre de notre très grand empereur, Frédéric Barberousse, l'antipape Pascal III canonisa Charlemagne en 1165. Et maints diocèses, surtout en Allemagne, célébrèrent son culte. Puis, on le rétrograda au rang déjà estimable et enviable de bienheureux. En France, même en 1471, le dévot roi Louis XI exigeait qu'on l'honorât dans les églises à la date du 28 janvier. Après bien d'autres, dont Prosper Guéranger, le célèbre rénovateur de Solesmes, a fait de lui l'éloquent éloge dont nous extrayons ces lignes. Quand on admettrait que ce grand prince eût commis des fautes, on sait qu'il ne se privait pas de concubines et la manière qu'il eut d'évangéliser ne fut rien moins qu'évangélique. Il faudrait les reporter, ces fautes, aux premières années de son règne. Alors il serait juste, en même temps, de considérer dans le reste de sa vie les traces admirables de la plus sincère pénitence. N'est-ce pas un spectacle merveilleux que de voir un si grand guerrier, parvenu à la monarchie universelle, s'exercer continuellement à la sobriété, si rare dans sa race, mais encore à des jeûnes comparables à ceux des plus fervents solitaires, porter le cilice jusqu'à la mort, assister de jour et de nuit aux offices de l'Église jusque dans ses campagnes, sous la tente. Secourir par l'aumône, qui, comme dit l'Écriture, couvre la multitude des péchés, non seulement tous les pauvres de ses états qui venaient implorer sa charité, mais jusqu'aux chrétiens de l'Afrique, de l'Égypte, de la Syrie et de la Palestine, en faveur desquels il épuisa souvent ses trésors. Mais ce qui dépasse tout, et nous découvre dans Charlemagne, d'un seul trait, l'ensemble des vertus chrétiennes que l'on peut désirer dans un prince, c'est qu'il ne parut avoir reçu le pouvoir suprême que pour le faire servir à l'extension du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Si l'on cherche notre mobile dans tout ce qu'il a fait par ses victoires et par sa législation, on ne le trouvera pas. Cet homme qui tenait en sa main non seulement la France, mais encore la Catalogne, la Flandre, la Hollande et la Frise, les provinces de la Westphalie et de la Saxe jusqu'à l'Elbe, la Franconie, la Souabe, la Thuringe et la Suisse, les deux Pannonies, c'est-à-dire l'Autriche et la Hongrie, la Dacie, la Bohême, l'Istrie, la Liburnie, la Dalmatie et jusqu'à l'Esclavonie, enfin toute l'Italie jusqu'à la Calabre inférieure. Cet homme, disons-nous, est le même qui s'intitulait ainsi dans ses capitulaires « Moi, Charles, par la grâce de Dieu et le don de sa miséricorde, roi et gouverneur du royaume des Français, dévot défenseur de la Sainte Église de Dieu et son humble champion. » Après la Renaissance carolingienne, un temps de décadence, du milieu du IXe siècle au milieu du Xe siècle, donc approximativement de 850 à 950. À partir du milieu du IXe siècle, l'Occident entre dans une période particulièrement difficile. L'Empire, menacé d'implosion sous Louis le Pieux, se fractionne définitivement au traité de Verdun en 847. L'effondrement de l'Empire carolingien entraîne celui de l'Église, avec laquelle il était tellement soudé. Les actes des conciles du temps, ceux de Tribur en Hesse en 895, de Trosly près de Reims en 909, tracent un sombre tableau. Ville dépeuplée, monastère détruit, campagne désertée, partout impureté, adultère, vol dans les églises, meurtre, oppression des pauvres, confiscation des biens ecclésiastiques, renouveau du paganisme. Avec Charlemagne, la guerre était aux frontières et l'Empire connaissait l'ordre et la paix. Désormais, les invasions barbares reprennent. Vikings sur les côtes atlantiques, Sarrasins au sud, Hongrois à l'est font régner la terreur, la misère et la désolation. Maintenant sans contrôle, les évêques ne sont plus que des seigneurs qui lèvent des impôts, entretiennent des milices et battent monnaie. La simonie prospère et le nicolaïsme, tout se vend, les évêchés, les abbayes, les paroisses. On voit en Bretagne, par exemple, des évêques se succéder de père en fils. Certains n'ont pas plus de 5 ans, ainsi Hugues de Vermandois, archevêque de Reims. Les églises des campagnes appartiennent de plus en plus aux patrons laïcs. On en voit le comte de Rouergue, par exemple, qui possède jusqu'à 60 églises. Les monastères eux-mêmes subissent le contre-coup d'une crise aussi générale. Plus de vie liturgique, plus d'activité culturelle. Les richesses monastiques attirent non seulement des barbares, mais les seigneurs du pays, qui souvent s'installent dans ces murs, dans les murs de ces monastères, avec femmes, enfants et suites guerrières. En même temps, se déclare une crise très grave de la papauté. À cette époque, la papauté paraît plongée dans un gouffre. Nous ne donnerons pas tout le détail de ces horreurs et de ces turpitudes. Relevons pourtant que de 896 à 904, par exemple, 8 papes sont assassinés ou meurent en prison. Car on ne fait pas de vieux os sur le trône de Saint-Pierre. On compte 21 papes pour le 9e siècle, 22 au 10e, sans parler d'au moins 8 antipapes. La papauté est successivement ou simultanément le jouet des Carolingiens, des Théophylactes, des ducs de Spolète, des comtes du Frioul, des empereurs de la maison de Saxe, des Crescenzi, des Tuscolani. Et au milieu de tant d'intrigues, d'orgies et de crimes, on voit des femmes d'une séduction et d'une adresse diaboliques. Ainsi, la célèbre Marusia, de la puissante maison des Théophylactes, qui fut la maîtresse de Serge III, la mère de Jean XI, la grand-mère de Jean XII et la tante de Jean XIII. Ce Serge III, dont elle était la maîtresse, pape à 16 ans, mourut à 19, épuisé, dit-on, par ses orgies. Sans doute s'est-on souvenu d'elle pour forger le mythe de la papesse Jeanne. La haine aussi domine à ce point ces milieux qu'il faut bien appeler pontificaux, qu'un concile qu'on a nommé le concile cadavérique se réunit sous la présidence d'Étienne VI, nous sommes en 896, pour juger son prédécesseur Formose. Le cadavre est arraché à sa tombe, installé dans un fauteuil, accablé d'insultes et d'anathèmes, solennellement dégradé, puis jeté dans le Tibre. Atroce. Et qu'on imagine encore le scandale que suscita l'enlèvement dans le palais épiscopal de la femme et de la fille du pape Adrien II par un certain Éleuther. Le ravisseur s'enfuit en Allemagne avec ses proies et le pape pria le roi de Germanie Louis II d'intervenir, trop tard. Éleuther avait tué et la femme et la fille. Et pourtant, même en cette sombre période, pendant ce profond sommeil du Christ dans la barque de Pierre, ainsi que disait Baronius, il y eut des papes dignes de leur rang. D'abord et surtout Nicolas Ier le Grand, qui régna de 858 à 867. Un chroniqueur de l'époque, Réginon, disait à son sujet, « Depuis le bienheureux Grégoire, aucun pape ne peut être comparé à Nicolas. Il régna sur les rois et les tyrans. Il les soumit à son autorité comme s'il eût été le maître du monde. » En sorte que nous devons regarder Nicolas Ier comme le premier pape en qui la civilisation de l'Occident a reconnu absolument son guide. Il a été le premier pape médiéval, l'ancêtre immédiat de Grégoire VII et d'Innocent III. Et nous citerons encore Grégoire V, le premier pape allemand, de 996 à 999, et le premier pape français, Gerbert d'Aurillac, le pape de l'an 1000. Il régna de 999 à 1003. La faveur de l'empereur allemand Othon III, qui avait été son élève, le fit archevêque de Ravenne, puis pape. D'une science consommée, petit détail parmi tant de mérites, c'est lui qui répandit l'usage des chiffres arabes. On ne connaissait avant que les nombres romains. Son action apostolique fut capitale en Pologne et en Hongrie, où il couronna Saint-Étienne, événement majeur pour la conversion de cette nation au christianisme. Enfin et surtout, toujours à propos de la papauté, il faut remarquer que tant de faiblesses humaines n'entamèrent pas le crédit que le peuple catholique accordait à la papauté. Nous n'en donnerons qu'un témoignage qui émane, il est vrai, d'un spirituel de haut vol, à bon l'abbé de Cluny. L'autorité, disait-il, du siège romain et apostolique brille par la faveur du Christ sur l'Église universelle de toute la terre. Et ce n'est pas étonnant, puisque les pontifes de ce siège sont les lieutenants de Saint-Pierre, qui est le prince de toute l'Église. Celui qui contredit l'Église romaine, que fait-il d'autre que de se soustraire de ses membres, de façon qu'il devient partie des adversaires du Christ. Parole de poids, de celle qui préparait les grandes heures que Rome allait connaître dans son proche avenir et qui valent aujourd'hui comme alors d'être écoutées et méditées. Et la fin du Xe siècle fut un temps d'espérance. On a cru trop souvent sur quelques témoignages, dont le principal est celui du pittoresque et truculent moine bourguignon Raoul Glaber, que le premier millénaire de l'Église s'est achevé dans la terreur. Les chrétiens auraient attendu dans l'angoisse les catastrophes annoncées pour la fin des temps. C'est oublier que les populations de ce temps ignoraient le calendrier et qu'elles sont donc passées d'un millénaire à l'autre dans une parfaite innocence. Pierre Richer, sans aucun doute l'un des historiens d'aujourd'hui qui étudie le plus cette époque, parle assez paradoxalement du Xe siècle comme d'un grand siècle chrétien. Dans la deuxième moitié du Xe siècle, écrit-il, l'horizon s'éclaircit, des lueurs apparaissent qui font pressentir le bout du tunnel. Les empereurs reprennent les traditions carolingiennes, les monastères se réforment, les églises se réorganisent. Les frontières de la chrétienté sont repoussées vers l'Est, une renaissance intellectuelle et artistique apparaît comme la suite des renaissances carolingiennes. Le premier millénaire se termine dans l'espérance avec la paix de Dieu et les deux règnes courts et glorieux du pape Sylvestre II et de l'empereur Othon III. La paix de Dieu, c'est ce serment par lequel les seigneurs s'engagent à respecter la vie et les biens des chrétiens sans armes, des pauvres, des serfs, des manants, des moines, des clercs. Et l'on voit déjà se profiler à l'horizon l'idéal des chevaliers. C'est en 987, à La Prade, près du Puy, que l'évêque Guy d'Anjou réunit la première de ses assemblées de paix au cours desquels les hommes d'armes font ces promesses, ces serments qui humaniseront tellement la vie civile. Et notons enfin, ce sera notre dernier mot, que c'est alors, au cours de ce dernier siècle du millénaire, que commence la grande et belle histoire de Cluny. En 909, Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, et le moine Bernon fondent la célèbre abbaye bourguignonne qui devient le modèle de l'observance religieuse, et qui est à l'origine d'un mouvement réformateur très profond. Ses filles se multiplieront dans tout l'Occident au cours de 3 siècles de prospérité éclatante. L'idéal des chevaliers, celui des moines, s'exprime déjà. Décidément, le temps est proche des plus grandes et plus belles heures de la chrétienté médiévale.
Histoire de l'Église, une émission proposée par le Père Sabalo, c'est une rediffusion des 22 émissions réalisées par le Père Joseph Sabalo dans les années 1990 pour Radio Lapourdi. La semaine prochaine, 8e épisode, les papes.